Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un spécial peau noire. Et pour commencer, j'ai envie de dire que quelle que soit la couleur de la peau, les cellules sont exactement les mêmes. Mais penchons-nous sur la peau noire. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Est-elle plus ou moins fragile que les autres? A-t-elle besoin de protection solaire, par exemple? Est-ce que les produits pour peau blanche valent également pour les peaux noires? Et comment en prendre soin correctement? Et qu'en est-il de la pratique de l'éclaircissement de la peau? Bref, des tonnes de questions et des clichés aussi que nous allons combattre aujourd'hui avec le docteur Antoine Petit. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie.
Approchez-vous du micro, vous êtes avec nous pendant presque une heure pour répondre aux questions qui arrivent déjà nombreuses les questions. Alors, vous êtes spécialiste de la dermatologie ethnique, on peut dire ça, puisque vous aviez publié un livre en anglais, c'était en 2013. Et aujourd'hui, docteur Antoine Petit, vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Nous aurons également des conseils avisés de la part du docteur Mohamed Massiré Souma, qui est dermatologue vénérologue au service de dermatologie MST au CHU Donka de Conakry en Guinée un peu plus tard dans l'émission. Vos questions, vos témoignages, nous les attendons très nombreux. Le standard chauffe déjà au 33 1 84 22 75 75. Que faire en cas d'acné? Comment bien hydrater une peau noire ou métisse? Comment soigner les poils incarnés? Ce sont les questions qui arrivent déjà. Nos spécialistes sont là pour vous répondre. Et en fin d'émission, comment s'organise la lutte contre les résistances aux agents anti-infectieux? Nous en parlons à l'occasion du 20e anniversaire des rencontres francophones qui se sont déroulées le 20 mai. C'était il y a deux jours, donc à Genève, et nous serons en direct avec Philippe Lamoureux, directeur général du LEM. Il représente donc les entreprises du médicament.
Priorité santé sur RFI.
L'éclaircissement de la peau, ce que j'en pense, je me dis que c'est moralement pas bien. Quand je dis morale, c'est pas une morale religieuse. L'éthique même, aller contre nature, faire violence à la nature, tuer la nature en quelque sorte. Je pense que tout ceci doit avoir une source historique. Les arabo-berbères, ils sont venus, ils ont vaincu nos cultures, donc ils se sont posés en maître. Donc ces gens n'ont autre sphère de référence que la peau claire, qui est source de beauté, qui est source de puissance, donc qui renvoie même au divin, à la divinité. Donc ces gens se sont adonnés à cette pratique qui est malsaine, qui pose vraiment un problème de santé. Personnellement, moi j'ai des sœurs qui, à la trentaine, ont l'apparence d'une vieille femme. Voilà. Et puis, c'est un engrenage. Et ces personnes s'adonnent à ces pratiques et ne peuvent plus lâcher. Parce que j'ai vu des cas où vraiment, deux ou trois jours, une semaine de non-utilisation de ces produits cosmétiques, et de ces poisons, je vais dire, les personnes, comme elles commencent à s'assombrir, à reprendre, la nature essaie de reprendre ses droits, donc ça devient un cercle vicieux. Elles ont hâte de reprendre le même poison pour s'éclaircir. Voilà, c'est pas pour les brimer ou autres, pour les martyriser ou les dénigrer. Moi, je les aime. J'aime la femme noire. J'aime la femme, naturellement, qu'elle soit noire ou autre. Mais moi, je me dis, aller contre nature, c'est de l'insulte. Personne ne connaît mieux que la nature. Vous êtes clair, moi je suis sombre. Si la nature a voulu que les choses soient comme cela, c'est que c'est mieux comme ça.
C'était un témoignage d'Amélie Beaucourt, dont notre stagiaire, elle cherchait, elle, un témoignage de femme. Elle était dans le quartier de Château-Rouge, donc à Paris, de femme qui se dépigmente la peau, mais elle a fait chou blanc, comme on dit, pas de témoignage, c'était trop tabou, personne ne voulait en parler, donc elle a trouvé cet homme qui a donné son avis. C'est aussi votre combat, on en parlera tout au long de l'émission. Première réaction à ce témoignage, docteur Antoine Petit.
Ah, c'est un témoignage très intéressant parce qu'il contient beaucoup de choses, il appelle beaucoup de commentaires. Dans ce témoignage, on entend un jugement négatif, un jugement moral. On entend une interprétation, c'est-à-dire une interprétation des motivations d'après un certain contexte historique, d'après une certaine histoire. Et on entend aussi le poids des mots. Alors, le jugement, je pense que pour nous, médecins, on essaie de ne pas donner de jugement. On n'a évidemment pas de jugement moral à donner sur les pratiques. Et on voudrait que ce jugement soit remplacé autant que possible, du point de vue des médecins, par de l'information.
L'information. Mais c'est vrai que l'information, sur les dangers que courent, oui, le danger que courent les femmes.
Absolument, l'information sur les risques des produits. Mmh. Mais c'est vrai que l'information ne suffit pas à endiguer cette pratique. Mmh. Et puis, on entend une interprétation qui a peut-être une réalité. Je crois qu'il ne faut pas s'abstenir de réfléchir aux causes, aux motivations sociologiques, historiques, tout ce que vous voulez. Mais il faut bien entendre que ce n'est pas la même chose partout. C'est-à-dire, cette interprétation sur, par exemple, la percée lors de l'islamisation de l'Afrique, la percée des peuples arabo-musulmans, etc., c'est une interprétation. Elle est peut-être valable dans certains pays, mais clairement, elle va pas être valable au Vietnam, au Laos, aux Philippines ou en Amérique du Sud, où c'est d'autres enjeux, d'autres références historiques.
Oui, ou quand on a la peau foncée, c'est plutôt parce qu'on ressemble à un paysan. Et donc, du coup, il faut s'éloigner
notamment
de
cette
image
cette
de respect, en fait. La peau blanche, il y a beaucoup aussi quand même qui évoquent les restes de la colonisation, que les teints clairs sont plus respectés.
Bien sûr. Et puis, on peut évoquer plein d'autres choses. On peut évoquer la clarté des femmes par rapport aux hommes, qui était par exemple un grand enjeu de séduction et d'identité sexuelle ou genrée depuis toute l'antiquité gréco-latine et probablement avant.
C'est ce qui fait que les femmes sont les plus grandes consommatrices en fait de ces produits.
Peut-être qu'il y a eu cette espèce de jonction entre le souhait d'être femme, des femmes d'être plus clair, parce que la féminité était un peu équivalente à la clarté par rapport aux hommes qu'on attendait, par exemple, dans l'Antiquité romaine, plus foncés que leurs partenaires. On voit ça sur les fresques de Pompéi. Donc, vous avez beaucoup... Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le polymorphisme. Hein, c'est qu'il n'y a pas les mêmes pratiques, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes racines historiques, sociologiques. Mais en revanche, il y a deux choses qui sont, dans ce témoignage, qui sont aussi passionnantes. La première, c'est l'évocation du caractère addictif parfois. Les pratiques les plus extrêmes de dépigmentation volontaire, les gens ont du mal à arrêter, hein, même quand ils perçoivent les effets néfastes que ça a sur leur peau. Alors ils se couvrent de taches et pourtant ils continuent, c'est tout à fait saisissant et ils disent de même que c'est comme une drogue. Puis l'autre chose, c'est que ce témoignage, le monsieur, il a dit, il y en a qui ont la peau claire, il y en a qui ont la peau sombre. Dans les mots qu'on emploie, il y a des arrière-pensées. Hein. Pourquoi on dit clair d'un côté, sombre de l'autre? Pourquoi on dit pas, il y en a qui ont la peau colorée ou brillante ou teintée, et puis d'autres fades ou pâles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs sens aux mots. En général, clair, on lui donne un sens positif, et sombre, un sens négatif. Peut-être que...
En tout cas, il y a un mouvement quand même qui renaît, hein, de Black is Beautiful. Donc, il y a aussi ça qu'il faut voir. Il y a des tas de gens maintenant qui revendiquent effectivement cette peau noire.
Ça dure depuis le Black is Beautiful. Il date d'un certain temps. Il date des Black Panthers. Il date de tous les mouvements américains des années 60, 70 plutôt. Et il n'a pas suffi à empêcher le phénomène de dépigmentation volontaire de prendre son essor dans le monde entier.
Ouais. En tout cas, si vous êtes à l'écoute et que vous pratiquez cette dépigmentation, on est intéressé, bien sûr, pour vous écouter sur l'antenne de Priorité Santé. Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 et on va tout de suite prendre au téléphone Esaïe qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Esaïe.
Oui, bonjour madame.
On est à votre écoute avec le docteur Antoine Petit.
Bonjour.
Oui, bonjour docteur.
Alors vous avez des dartres. On écoute votre témoignage et votre question.
Oui, j'ai des dartres sur mon corps qui datent depuis plus d'une dizaine d'années. Et ces dartres sont apparues et j'essaie de les traiter. J'ai fait la pharmacopée traditionnelle. Ça n'a pas marché. J'ai consulté un dermatologue et qui m'a prescrit des produits. Quand je fais le traitement, à un moment donné, ça disparaît. Et après, ça réapparaît. Vraiment, ça me dérange beaucoup. Je ne sais pas comment faire. Le dernier traitement, je suis rentré en contact avec une dermatologue qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui m'a prescrit des produits. Et je fais le traitement, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Il faut dire que ces dartres sont positionnées au niveau de ma poitrine, sous mes aisselles et sur mon dos. Donc vraiment, la question que je me pose, est-ce qu'il y a un traitement efficace pour pouvoir lutter contre cette date définitivement? La deuxième question, est de savoir, est-ce que cette date peut évoluer vers un cancer de la peau? Merci, docteur.
Merci pour ces questions. Il est bien difficile de vous répondre parce que le mot dartre a été employé pour beaucoup de maladies de peau différentes. Et là, simplement au téléphone, je pourrais pas me risquer à faire un diagnostic. Mais ce que vous expliquez très bien, c'est le caractère chronique de votre maladie, c'est-à-dire le fait que les traitements, lorsqu'on les applique bien, peuvent être efficaces pendant un certain temps, mais que la maladie revient, notamment lorsqu'on interrompt les traitements. Et ça, c'est un problème très général pour beaucoup, beaucoup de maladies inflammatoires de la peau. Et pour beaucoup de ces maladies, nous n'avons pas, en effet, de traitement définitif.
Mais la darte, quand même, expliquez ce que c'est. C'est une zone donc, qui est complètement asséchée.
Alors, le mot darte est employé pour des choses qui peuvent être très différentes. Donc, je ne peux pas dire, je ne ferai pas de diagnostic. Effectivement, en général, ce sont des zones qui sont soit un peu plus claires, soit un peu desquamatives, c'est-à-dire qu'il y a comme un peu de farine ou comme un peu d'écailles sur la peau. Mais après, là encore, hein, on peut avoir une variété de diagnostics différents. Donc, je ne peux pas aller tellement plus loin. Mais en tout cas,
pas de recette miracle non plus pour que les dartes disparaissent.
C'est de discuter avec le dermatologue ou avec les dermatologues que vous voyez, de discuter justement de cette chronicité, de comment faire pour maintenir le traitement, trouver le meilleur équilibre entre l'inconvénient qu'il y a à mettre un traitement et à le remettre sans arrêt, et puis l'inconvénient qu'il y a avec ces problèmes de peau. Quoi.
Est-ce que ça peut évoluer vers un cancer? C'était aussi l'inquiétude de Esaïe.
Alors, je ne peux pas lui répondre. Je peux simplement, si on veut être rassurant, dire que il n'y a pas très très souvent des cancers de peau sur les peaux foncées, parce que le principal facteur de cancer, c'est le soleil, et que les peaux foncées ont un peu de protection intrinsèque grâce aux pigments contre les méfaits du soleil. Alors, on voit quand même des cancers sur peaux foncées, attention, hein, même sur les peaux les plus noires, mais c'est quand même très rare, et... En général, les dartes ne se transforment pas en cancer, donc on peut être rassurant. Mais pour des renseignements plus précis, il faut demander au dermatologue qui verra et qui palpera les lésions. Moi, je ne peux pas le faire.
Vous avez bien fait d'insister là-dessus, sur cette spécificité hein, des peaux noires, c'est qu'elles sont protégées des UV naturellement. On peut dire ça comme ça?
Oui. Oui, on peut le dire. C'est un mécanisme davantage évolutif donné par la par le principe de la sélection naturelle, de l'évolution et les principes darwiniens hein, qui commandent donc les peuples qui vivent en régions plus ensoleillées. Ont plus de pigments d'une manière générale au cours de l'évolution. Alors, tout s'est transformé évidemment à l'époque moderne parce qu'il y a des voyages et que les gens ont beaucoup bougé. Mais au cours des centaines de milliers d'années d'évolution des humanités, eh bien, les peuples qui ont gardé ou acquis une peau plus pigmentée lorsqu'ils étaient soumis à des conditions d'ensoleillement importantes et ont perdu une partie de leurs pigments lorsqu'ils ont migré vers des régions où il y avait moins de soleil. Mmh. Alors on sait pourquoi ils ont perdu leurs pigments, c'est essentiellement pour pouvoir synthétiser plus de vitamine D pour lutter contre le rachitisme. Donc le fait d'avoir moins de pigments donnait un avantage évolutif aux personnes qui avaient moins de pigments, quoi, qui pouvaient donc avoir plus facilement une descendance active, etc. Pourquoi est-ce que les peuples ont acquis ou conservé plus de pigments en vivant en climat plus ensoleillé? Il y a une discussion là-dessus, mais l'anthropologue physique de référence, qui est Nina Jablonski aux États-Unis, pense que c'est parce que la pigmentation cutanée en protégeant contre le soleil, contre les ultraviolets du soleil, va empêcher la dégradation des folates et permettre à la descendance d'avoir moins de problèmes de malformations neurologiques du tube neural.
Mais est-ce que ça veut dire du coup qu'il ne faut pas ou qu'on n'a pas besoin d'utiliser de protection, de crème solaire par exemple?
Alors ça c'est un sujet de débat et c'est un sujet pour lequel donc comment dire, mon opinion personnelle est une position personnelle.
Ouais.
Je pense qu'il y a de la part des grandes firmes cosmétiques un intérêt à prendre pied sur le marché des personnes à peau pigmentée en leur faisant croire qu'elles mettent beaucoup de crème solaire parce que c'est un marché qui est extrêmement intéressant en termes financiers.
Très juteux, on imagine, vu la quantité de gens sur le continent africain.
Je me suis un peu élevé contre ça. Alors, bon, il faut quand même garder, faut être raisonnable, c'est-à-dire que des pigmentations un peu intermédiaires, ce qu'on appelle des phototypes 4 à 5, c'est-à-dire des gens qui ont une peau naturellement très mate, mais qui sont soumis à des conditions d'ensoleillement extrêmes, font quand même des cancers de la peau, donc il faut quand même qu'elles se protègent. Mais sur les peaux les plus pigmentées et sur les peaux les plus noires, c'est un non-sens. Et donc, on a écrit dans ce sens avec, justement, avec Madame Jablonski, puis avec mes collègues Ophélia Dadjé et d'autres collègues, on a écrit dans ce sens pour mettre en garde contre... il n'y a pas de nécessité de mettre des crèmes solaires qui coûtent très cher en plus pour se protéger
surtout
contre
si on a une
cancer.
Vie quotidienne normale,
voilà,
sans être travailler dehors toute la journée sous le rayon du soleil. Alors on va tout de suite prendre Awa qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Awa.
Bonjour Catherine.
Alors, bonjour madame.
Bonjour, c'est Sandrine Mercier aujourd'hui aux manettes de l'émission. Catherine, justement, elle est à Dakar pour une émission qu'on entendra demain sur la lutte des... Oui, Caroline, sur la lutte des faux médicaments. Alors, on écoute votre question, Awa.
Oui, honnêtement, je souffre de démangeaisons après m'être lavée. C'est-à-dire, quand je me lave, je souffre de démangeaisons au niveau de ma peau pendant 10 à 15 minutes. J'ai essayé de changer de savon, de crème, de serviette. Je chauffe de l'eau, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Et je souffre de ça depuis 2 ans.
Alors, vous savez... Pour décrire, on connaît bien ce que vous ressentez, mais on emploie les, vous savez, les médecins, nous autres, on n'emploie pas les mots du langage courant. Alors, on va appeler ça un prurit aquagénique. Mais ça veut dire exactement ce que vous racontez, c'est-à-dire que quand vous passez sous la douche, quand vous vous lavez, eh ben, vous avez des démangeaisons. Alors, c'est un phénomène qui est connu, c'est ce qu'on appelle un syndrome, c'est-à-dire que ça peut correspondre à différentes causes. Parfois, mais très rarement, on peut avoir une cause un peu générale. Alors, on fait parfois une prise de sang pour voir s'il n'y a pas une anomalie, mais c'est tout à fait rare. Et en fait, très fréquemment, la plupart du temps, quand on a ça, c'est un prurit à l'eau, un prurit aquagénique. Et on peut essayer différentes choses. Ce qu'on essaye le plus souvent, qui marche le mieux, c'est de prendre des médicaments anti-urticaires, ce qu'on appelle des médicaments anti-histaminiques, et avant de prendre sa douche. Et souvent, ça marche bien. Bref, plusieurs causes, un phénomène banal et très fréquent qui peut avoir plusieurs causes et vous pouvez en parler à votre médecin. En tout cas, c'est pas du côté du savon qu'il faut chercher, hein, c'est simplement l'eau qui déclenche une réaction comme ça de démangeaison de courte durée. Ça peut être le plus souvent une sorte d'équivalent d'urticaire qui se traite avec des antihistaminiques.
La réponse vous convient, Awa ?
Oui, ça convient.
Merci beaucoup Awa pour votre question et donc où il faut continuer de supporter ces démangeaisons. Donc
faut consulter. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la solution. Il hein, faut dire malheureusement.
Merci beaucoup.
Mais c'est pas grave.
Awa, alors continuez de nous appeler au 33 1 84 22 75 75. N'attendez pas la fin de l'émission. On écoute tout de suite Yer Fara qui est chanté par Samba Touré. Vous écoutez Priorité Santé, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce spécial peau noire. Kéloïdes, pigmentation, hydratation, allergie et traitement laser. Les peaux noires présentent des spécificités. Que faire en cas d'acné? Comment bien hydrater une peau noire ou métisse? Quels sont les risques de la dépigmentation? Dans quel cas utiliser des traitements laser? Et quelles sont les précautions d'usage? Des questions aussi qui arrivent sur les poils incarnés. Nous sommes avec le docteur Antoine Petit, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et vos questions donc arrivent très nombreuses aujourd'hui au 33 1 84 22 75 75. Et on va partir tout de suite pour la Guinée avec le docteur Mohamed Massiré Souma. Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, cher confrère.
Merci. Bonjour, docteur Antoine. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes dermatologue, vénérologue au service de dermatologie MST au CHU Donka, c'est donc de Conakry en Guinée. Alors, pour faire un point avec vous, on vous consulte surtout pourquoi en ce moment, docteur Mohamed Massiré Souma?
Alors, les motifs de consultation dans notre service sont très variés. Donc, les patients peuvent consulter pour des problèmes infectieux de la peau, le problème esthétique au niveau de la peau. Mais ce qui nous cause énormément de problèmes, ce sont surtout les complications liées à l'utilisation des produits dépigmentants.
Donc, vous voyez les désastres du blanchiment de la peau, comme on dit, vous en voyez tous les jours?
Exactement. Parce que quand vous prenez les complications liées à cette pratique, par exemple, les complications infectieuses comme les dermohypodermites bactériennes, c'est le premier motif d'hospitalisation dans notre service.
C'est quoi? C'est l'apparition de champignons en langage commun? Qu'est-ce que c'est?
Non, pas les champignons, ce sont des infections bactériennes de la peau, surtout des différentes couches de la peau, de l'épiderme, du derme, et même au niveau de l'hypoderme. Donc, il peut parfois entraîner ce qu'on appelle une nécrose, donc qui peut mettre une plaie, une vaste plaie au niveau de la peau et qui parfois qui peut aller jusqu'au niveau des tissus profonds. Et donc, ces complications, lorsque nous recevons les patients pour cela, ils peuvent séjourner dans le service pendant un bon moment.
C'est-à-dire que les plaies, donc, elles ne cicatrisent plus, c'est infectieux, donc vous l'avez dit. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau?
Alors, ce que nous faisons à notre niveau, c'est de faire le traitement, les antibiotiques. Ensuite, parfois, lorsqu'il y a la nécrose, il faut faire un débridement chirurgical, c'est-à-dire et faire la résection de tous les tissus nécrosés. Et puis faire les pansements. Et parfois, on est obligé de faire des greffes de peau pour faciliter la cicatrisation des plaies.
Ah oui, ça va jusqu'à la greffe de peau.
Ah, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi il faut vraiment lutter contre cette pratique, le blanchiment de la peau. Et permettez-moi de remercier Dr. Antoine pour tout ce qu'il fait au sein de la Société française de dermatologie dans le domaine de peau noire.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre, en fait, que tous ces traitements, docteur Antoine Petit, en fait, ça détruit la mélatonine qui sécurise la peau, c'est ça?
Alors non, pas la mélatonine qui est autre chose, mais c'est pas grave. Non.
Qu'est-ce que ça détruit?
Alors, ça diminue l'activité des cellules qui fabriquent le pigment mélanine. Donc, ça diminue l'activité de ces cellules. Ça peut finir par tuer ces cellules. Mais surtout, ça a des effets les autres composants de la peau. Et notamment, en diminuant les défenses immunitaires de la peau, en diminuant l'épaisseur de la peau, en la rendant plus atrophique. Et ça, sont surtout les effets d'une substance qui s'appelle le clobétasol, qui est un dérivé de la cortisone, dont nous on se sert comme médicament, mais qui est là détourné de son usage et qui cause beaucoup de dégâts.
Alors ça peut aller très loin sur des produits extrêmes. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à votre niveau, docteur Mohamed? Qu'est-ce que vous voyez, votre niveau? Les femmes, elles vont jusqu'où?
Oui, et justement, vous parlez de ces produits, et docteur Antoine vient de le dire, quand vous prenez le clobétasol, qui est un dermocorticoïde d'activité très forte, quand vous le prescrivez pour un patient, il peut faire le tour des pharmacies, il ne trouve pas. Mais vous allez sur le marché, vous trouvez le marché est inondé de ces produits. Ils sont détournés de leur usage usuel pour être utilisés dans la pratique de la dépigmentation. Et donc, du coup, les femmes, nous les recevons au stade de complications. Et ces complications sont très nombreuses. Et il y a, en plus de ces complications infectieuses, il y a des complications trophiques et esthétiques. Par exemple, il y a des femmes qui viennent avec l'atrophie cutanée qui peut aller jusqu'aux vergetures. Et ces vergetures, quand elles s'installent, on nous demande parfois de les aider à faire disparaître. Mais les vergetures, c'est difficile pour dire que pratiquement on ne peut plus rien faire lorsque les vergetures, par exemple, s'installent. Parce que c'est comme si vous avez l'élastique de caleçon qui se rompt, on ne peut plus raccommoder. C'est pareil parce qu'au niveau de la peau, il y a les fibres élastiques. Donc l'utilisation de ces produits peut entraîner la cassure de ces fibres élastiques et donc entraîner cette atrophie et ces vergetures.
Quand vous parlez de ces vergetures, on est bien d'accord, hein, c'est pas des petites vergetures comme on voit couramment chez tout le monde. Hein. C'est des vergetures qui sont énormes et qui sont dans des situations, des topographies particulières.
Vous avez une idée de cette pratique, effectivement, comment elle est répandue ou quoi? Parce que là, par exemple, nous, Amélie Beaucourt, essayait d'avoir un témoignage de femme en étant comme ça dans la rue, dans Château-Rouge. Les femmes ne voulaient pas, personne ne voulait en parler. À Paris, des chiffres circulent, 20% des femmes noires utiliseraient ces produits éclaircissants. Vous avez une idée, vous, en Guinée?
Alors, la pratique, elle est très répandue, extrêmement répandue. Parce que quand vous allez même au niveau des écoles, dans le secondaire, déjà, les jeunes filles commencent à faire cette pratique. Ce qui fait qu'actuellement, on s'attend à des complications extra-dermatologiques chez ces femmes. Parce que plus la pratique est longtemps utilisée, plus les complications peuvent survenir à l'âge adulte.
Parce qu'elles l'utilisent de plus en plus jeune, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, de plus en plus jeune. Parce que ce qui se passe... Malgré tous les combats que les médecins mènent contre ce fléau, quand vous vous promenez à travers les capitales africaines, vous trouvez partout des panneaux publicitaires vantant les mérites de ces produits dépigmentants. Alors que les gens savent effectivement quelles sont les conséquences par rapport à la santé. Et les conséquences par rapport à la santé, les conséquences économiques, parce que l'utilisation de ces produits amène une très grande évasion fiscale. Quand vous prenez le coût de ces produits, que les femmes utilisent pour acheter ces produits, c'est vraiment énorme.
Oui, ça correspond, effectivement, c'est un sacré budget. Hein. Je voyais même en France, on dit au moins 1 000 euros par an de budget.
C'est pareil en Afrique, pour dire peut-être même un peu plus.
Vous estimez, comme dans d'autres études qui ont été faites en Afrique subsaharienne francophone, que c'est au moins 50% des femmes adultes, je dirais entre 15 et 50 ans, au moins la moitié se dépigmentent environ?
Oui, effectivement. C'est une pratique qui est vraiment très répandue. Très répandue. Parfois même, vous voyez des femmes qui ont un teint clair, il s'adonne encore à cette pratique pour avoir encore le teint un peu plus clair.
Oui, mais vous parliez de pratique addictive aussi. Il y avait quelque chose de l'ordre, presque une drogue.
Oui, il y a un côté comme ça qui existe. Et j'avais une question à vous poser parce que chez les hommes... chez les hommes, habituellement, dans le monde francophone, c'est surtout une tradition culturelle congolaise, Brazzaville ou RDC, mais on retrouve un petit peu, effectivement, en Angola ou ailleurs. Et récemment, des collègues africains m'ont dit qu'on trouvait un peu plus d'hommes qui se dépigmentaient maintenant en Afrique de l'Ouest francophone. C'est plus seulement Nigeria ou Afrique de l'Est ou Afrique du Sud, mais qu'on trouve des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui se dépigmentent en Guinée aujourd'hui?
Oui, on reçoit certains hommes, mais la pratique chez les hommes n'est pas aussi répandue que ça. Mais c'est à petite échelle, effectivement, ça existe chez les hommes aussi.
Donc votre message pour terminer, docteur Mohamed Massiré Souma, quel est le message que vous voulez faire passer?
Alors, le message que je voudrais faire passer, c'est surtout à l'endroit des autorités. Il faudra réglementer le marché des produits cosmétiques. En même temps, essayer de limiter la publicité par rapport à ces produits. Parce que, comme vous le savez, un voleur, si vous laissez votre coffre-fort ouvert devant un voleur, vous le laissez à sa portée, mais il va s'en servir. Et c'est pourquoi il faut vraiment faire de la prévention pour limiter les conséquences de ce fléau dans notre société.
Merci beaucoup, hein, docteur Mohamed Massiré Souma, pour avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes dermatologue vénérologue au service de dermatologie MST au CHU Donka de Conakry en Guinée. Merci beaucoup.
Priorité santé sur RFI.
Et priorité santé aujourd'hui, priorité aux peaux noires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Comment prendre soin correctement d'une peau noire ou métisse? On est là pour répondre à vos questions avec le docteur Antoine Petit, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Et nous prenons Moïse qui attend depuis un petit moment au standard. Merci beaucoup hein, Moïse de nous appeler de Yaoundé du Cameroun. Et merci pour votre attente, on vous écoute.
Bonjour madame. En fait, moi, j'ai plutôt un problème de kéloïde au niveau de la poitrine. Et non, tout a commencé il y a environ 10 ans. Les petits boutons apparaissaient au niveau de la poitrine. Et lorsque je me suis rendu chez un dermatologue, il m'a fait comprendre que c'est ce qu'on appelle les kéloïdes. Et donc, par la suite, il m'a dit que jusqu'ici, la communauté scientifique n'avait pas encore trouvé de traitement pour ce genre de maladie. Néanmoins, il m'avait donné une pommade qui devait notamment arrêter la croissance, arrêter l'évolution de ces kéloïdes-là. Jusqu'à aujourd'hui, je les ai toujours et donc j'aimerais savoir si finalement c'est possible de les guérir.
Alors, docteur.
Bonjour, monsieur. Petit. Votre dermatologue a raison dans le sens où on n'a pas aujourd'hui de traitement médical pour supprimer, pour éradiquer ou même simplement on n'a pas de traitement général en comprimé ou en piqûre, en perfusion qui permettrait d'arrêter la maladie. Mais il y a quand même des recherches qui sont en cours. Alors aujourd'hui on a très peu de moyens. Les principaux moyens qu'on a, eh bien, ils sont pas forcément faciles d'utilisation. On peut dire que on peut opérer ou détruire la kéloïde, mais surtout lorsque c'est situé sur la poitrine, ça revient inévitablement. Et on a souvent beaucoup, beaucoup de mal à empêcher que ça revienne. Et en pratique, sur la poitrine, moi, je m'y risquerais pas parce que presque invariablement, ça se traduit ensuite par une récidive qui est encore plus grave qu'au début. Alors, les moyens médicaux, il n'y en a pas énormément. Je dirais que le principal, c'est de faire des injections à l'intérieur de la kéloïde. Pour ça, on utilise surtout des corticoïdes et on les injecte dedans. Mais c'est vrai que c'est une injection qui est assez douloureuse, qui fait que les gens peuvent se lasser, se décourager d'avoir ces injections. Mais tant qu'on fait ces injections, les kéloïdes ont tendance à s'aplatir. Si elles démangent ou qu'elles font mal, eh bien elles arrêtent de démanger, elles arrêtent de faire mal et elles arrêtent de s'étendre. Mais malheureusement, c'est un traitement suspensif, c'est-à-dire que ça marche pendant qu'on le fait et ça ne va pas libérer complètement du problème, ça ne va pas guérir complètement le problème et le résultat esthétique n'est pas toujours non plus très satisfaisant. Et à côté de ça, vous avez la compression. C'est vrai que quand on appuie très très fort, et ça on le sait depuis le milieu du 19e siècle, hein, quand on appuie très très fort, très longtemps, en permanence sur une kéloïde, eh bien elle régresse. Et pour ça, on peut utiliser, mais là encore c'est très difficile à mettre en place, surtout quand il fait chaud, hein, mais on utilise parfois des vêtements compressifs qui sont faits sur mesure et qui permettent d'exercer une compression forte. Très difficile en pratique en Afrique avec la chaleur. Et puis bon, il y a aussi la radiothérapie qui peut donner quelques effets, hein. Mais globalement, lorsqu'on a des kéloïdes sur la poitrine, eh bien le traitement se résume très souvent à faire des injections à la demande. À l'intérieur des kéloïdes, ben ça fait mal, mais on trouve des petits moyens pour que ça fasse moins mal, et on fait des injections pour les aplatir un peu, pour permettre de les maquiller, pour qu'elles démangent moins, qu'elles fassent moins mal. Mais malheureusement, on n'a pas de très très bon traitement.
Merci beaucoup, hein, docteur Antoine Petit. On va enchaîner avec David parce que nous avons énormément de questions. Alors David, qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour David.
Bonjour.
Nous vous
Bonjour,
écoutons.
Bonjour docteur.
Ok. Alors moi, c'est depuis 2008 que j'ai des boutons sans prurie sur mon visage. Et là, de temps en temps, j'essaye de percer afin de m'en débarrasser. Le seul traitement qui a fonctionné était un savon fait à base d'aloe vera que j'ai l'habitude d'utiliser et que je n'utilise plus actuellement. Juste parce que j'ai constaté en 2015 qu'il n'y a plus de boutons sur mon visage. Mais là, subitement, des traces noires apparaissent sur mon visage à la place de ces boutons. Et ma question est de savoir, est-ce que ces traces noires vont-elles disparaître un jour? Et comment? Et quelles sont leurs origines?
Merci beaucoup, hein, David, pour votre question. Alors, je voudrais juste solliciter Dr Antoine Petit sur justement le pourquoi. D'abord, la peau noire, elle marque plus facilement, elle fait des taches plus facilement qu'un autre type de peau, avant de répondre à David.
Pourquoi? Parce que le système pigmentaire, l'activité du système pigmentaire qui est situé dans l'épiderme avec ces fameuses cellules qu'on appelle des mélanocytes, qui sont pas en plus grand nombre, mais qui sont plus actives, on va dire, eh bien cette activité est augmentée d'une manière générale et est augmentée notamment en réponse à l'inflammation. Donc l'inflammation active, l'inflammation de la peau active le système pigmentaire. De manière immédiatement, c'est-à-dire immédiatement, ça peut activer le système pigmentaire et faire que l'inflammation apparaît comme une tache foncée. Et puis secondairement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une grosse inflammation, certains types d'inflammation, eh bien, on reste avec des taches résiduelles qui sont des séquelles, qui sont un peu des cicatrices. Mais c'est pas facile de faire la distinction. Et pour répondre à David, je dirais que c'est pas facile parce que parfois on se fait piéger parce que certaines taches qu'on pense être des séquelles, qu'on pense être des cicatrices, qu'on appelle couramment l'hyperpigmentation post-inflammatoire, en réalité traduisent un état inflammatoire qui existe. C'est-à-dire que les taches sont parfois un peu comme des boutons elles-mêmes. Elles apparaissent, elles disparaissent et elles répondent, elles réagissent au traitement qu'on donne habituellement aux boutons. Et ce traitement, c'est surtout pas de les percer, parce que percer les boutons, ça ne fait qu'aggraver les taches. Donc pour répondre à David, on peut dire que d'abord, il faut surtout pas percer les boutons, ça ne fait qu'aggraver les taches. Ensuite, peut-être qu'il a intérêt à reprendre un traitement d'acné parce que peut-être que ces taches sont en partie non pas des séquelles mais de l'acné encore active. Et enfin, oui, ça disparaîtra un jour, il peut être assuré, mais alors je peux pas lui dire quand, mais l'hyperpigmentation post-inflammatoire, elle disparaît quand même, et on ne voit pas chez des personnes, par exemple, de 40-50 ans, on ne voit pas de taches persistantes de l'acné qu'ils ont eu à l'âge de 15 ans.
Donc ça s'atténue petit à petit
Sauf s'ils continuent à avoir de l'acné, auquel cas ils continuent à avoir des taches.
Merci beaucoup, hein, David, pour votre témoignage, et on va enchaîner avec Tidiane, qui nous appelle du Douala au Cameroun. Bonjour Tidiane.
Oui, bonjour madame.
Nous vous écoutons.
Moi, mon problème est que vraiment, j'ai une peau très très grasse. J'ai beaucoup de comédons au niveau du visage, souvent quand j'appuie. Donc, j'aimerais savoir s'il y a un comprimé ou un traitement approprié pour ça, pour éradiquer les comédons.
Bonjour monsieur, oui, il y a des traitements possibles et ça il faut vraiment voir avec un dermatologue parce que c'est pas facile, c'est pas des traitements excellents, c'est des traitements qui peuvent avoir aussi, c'est souvent des crèmes qui peuvent avoir des effets un peu d'irritation, etc. Donc il faut en parler à un dermatologue. Il faut éviter, alors il n'y a pas de régime alimentaire à suivre, hein, puisque ça faisait partie aussi de un peu de la question écrite là, mais il faut éviter aussi tout ce qui intuitivement dégraisse la peau, c'est-à-dire que parfois on justement quand on a la peau grasse, on a tendance à essayer de frotter plus, de mettre des savons, des solvants, des choses comme ça un peu irritantes. Et si on dégraisse artificiellement beaucoup la peau, eh ben on a tendance probablement à faire réagir en réaction les glandes sébacées qui vont produire encore plus de gras. Donc tout ça, il y a des conseils un peu pratiques, il faut ajuster ça. C'est vraiment du ressort du travail du dermatologue. Oui.
Parce que c'est pas facile aussi de garder sa peau noire. On peut penser comme ça que c'est facile, mais en termes esthétiques ou en termes de cosméto, par exemple, les femmes souvent la couleur elle est pas forcément uniforme. Il peut y avoir des petites taches, des côtés plus clairs, plus sombres. Donc, quel type de soins on peut apporter à sa peau?
Ah, c'est une grande question. Moi, j'ai... D'abord, il y a une sensibilité particulière. Je pense que le dermatologue, notamment le dermatologue qui n'est pas familiarisé avec ça et qui a lui-même ceux qui ont ceux et celles qui ont la peau claire, se rendent pas compte de l'importance de ces petites nuances pigmentaires qu'on a parfois du mal à percevoir et qui perturbent beaucoup, qui sont très très mal vécues par les personnes de peau foncée. et pour lesquelles on n'a pas forcément de solution, parce qu'il y a vraiment des inégalités pigmentaires qui sont tout à fait physiologiques, tout à fait normales, et qui peuvent s'accentuer quand on change de climat. Hein. C'est classique que des personnes avec des peaux assez foncées, vivant en région très ensoleillée, tropicale ou subtropicale, ont une peau plus uniforme, et puis arrivant en climat tempéré, se rendent compte que, par exemple, le nez est plus clair, que le menton est plus foncé, etc. Alors, il y a quand même un grand conseil qui est valable pour toutes ces petites inégalités pigmentaires, et c'est un conseil très très important, c'est qu'il ne faut pas frotter. Parce que très souvent, des patients ont l'impression que finalement, en frottant fort les parties les plus foncées, avec des toilettes un peu agressives, un peu abrasives, ils vont éliminer un peu de ce pigment en trop. Et bien, c'est tout le contraire qui se produit, puisque le frottement stimule l'activité mélanocytaire et là encore a tendance à déclencher des hyperpigmentations de frottement. Donc surtout, ne frottez pas lorsqu'il y a des inégalités de pigments.
Et est-ce que les produits de cosmétiques pour peau blanche valent aussi pour les peaux noires, ou est-ce qu'il faut des produits vraiment adaptés?
Bon, il n'y a pas de raison, je dirais que les cosmétiques, chacun les adapte à son confort de peau. Des produits spéciaux peau noire, alors, il faut... Comment dire, tout ça, là, on est dans un domaine qui est le domaine de la cosmétique, avec du marketing, avec plein de choses comme ça, et pas beaucoup de réalités scientifiques, ou du moins pas forcément connues des médecins. Les cosmétologues font des études scientifiques, c'est sûr, mais ils n'ont pas besoin de publier leurs résultats et de les rendre publics pour vendre leurs produits. Moi, j'ai pas de conseils particuliers. Je dirais qu'il faut faire attention à pas utiliser trop de cosmétiques, parce que c'est pas forcément utile. Hein. On se lave avec de l'eau et du savon, on frotte pas trop fort. Et puis, si on trouve que c'est confortable de mettre une crème de jour ou de nuit, on met une crème de jour ou de nuit. Si on a une peau qui a une tendance acnéique sur le visage, faut éviter de mettre des crèmes trop grasses ou trop décapantes. Donc là, il y a vraiment des produits un peu spéciaux pour peau acnéique. Faut les mettre, qu'on soit noir ou blanc. Et puis, si on trouve qu'on a la peau sèche sur le corps, ben faut peut-être essayer de frotter moins fort, mais là on se heurte à à un fait culturel très important, c'est que toutes les peaux pigmentées à travers le monde, les gens ont tendance à les frotter beaucoup lors des toilettes, pour des raisons variées, mais qui sont devenues la variante culturelle.
Donc ne pas forcer sur le frottage.
Ne pas forcer sur le frottage, et puis mettre les produits qui vous plaisent et ne pas en mettre trop.
Merci beaucoup, docteur Antoine Petit, pour tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. On vous retrouve très bientôt.
Merci.
Priorité santé sur RFI.
Et tout de suite, comment s'organise la lutte contre les résistances aux agents anti-infectieux? Nous en parlons à l'occasion du 20e anniversaire des rencontres francophones qui se sont déroulées à Genève. C'était le 20 mai dernier et nous sommes en direct avec Philippe Lamoureux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du LEM, donc ce sont les entreprises du médicament. Alors les rencontres avec les délégations des pays francophones se sont tenues donc le 20 mai dernier. Il y avait aussi une vingtaine de ministres du beau monde. Quelle était la dimension particulière de cette édition, Philippe Lamoureux?
Alors c'était effectivement notre 20e manifestation. Et nous avons choisi de porter un sujet extrêmement sensible, hein, puisque nous avons choisi d'aborder la question de la résistance aux agents anti-infectieux, avec la participation d'une vingtaine de ministres de la Santé de la zone francophone et les témoignages de trois ministres éminents, le ministre de la Santé du Cameroun, le ministre de la Santé du Bénin et le ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire. Enfin, la ministre de la Santé française, Madame Buzyn, a accepté de venir clôturer ces rencontres autour d'un sujet de santé publique majeur à l'échelle planétaire.
Oui, parce que vous faites le constat sur ces maladies infectieuses, c'est presque un quart des morts dans le monde chaque année, avec 15 millions.
Oui, il y a surtout une dimension extrêmement préoccupante, c'est que ces maladies infectieuses sont en fort développement. On estime qu'en 2050, il pourrait y avoir une dizaine de millions de morts chaque année en plus liées à la résistance aux agents anti-infectieux, il faut donc sonner la mobilisation générale.
Mais comment comprendre en deux mots ce phénomène de résistance ?
Eh bien, je pense qu'il faut comprendre que nous avons beaucoup utilisé les antibiotiques et que nous avons, en une génération d'êtres humains, consommé, entre guillemets, 4 générations d'antibiotiques. Donc, les phénomènes de résistance se sont développés. Aussi d'ailleurs par l'utilisation des antibiotiques dans le règne animal, puisque l'agriculture utilise beaucoup les antibiotiques, et enfin parce que la recherche est un petit peu en panne aujourd'hui, qu'il faut la relancer.
Alors comment combattre ces résistances ?
Alors c'est une bonne question, il y a quatre façons de le faire. Très simplement, la première façon, c'est de développer la prévention. C'est-à-dire les règles d'hygiène telles que le lavage des mains tout ce qui permet de lutter contre la contamination de ces agents bactériens. Le deuxième élément, c'est la lutte contre la façon de médicaments. Il y a beaucoup de contrefaçons, notamment dans les pays en développement, beaucoup dans les pays d'Afrique. Dans certains pays, on estime que 50% des médicaments sont contrefaits. C'est un fléau de santé publique qui n'aide pas à lutter contre la résistance.
Ce sera le sujet développé demain par Caroline Paré d'ailleurs.
Voilà. Le troisième élément, c'est la juste prescription, c'est-à-dire le bon usage. On prescrit probablement trop d'antibiotiques et pas toujours à bon escient. On confond par exemple souvent une pathologie bactérienne et une pathologie virale. La pathologie virale ne nécessite pas un traitement aux antibiotiques. Par contre, la pathologie bactérienne, oui. Donc il faut faire le tri au moment de la prescription. Et puis le quatrième élément, et c'est probablement le plus compliqué, c'est d'imaginer de nouveaux modèles de recherche et développement pour trouver de nouvelles solutions thérapeutiques contre ces agents infectieux. Et là, il faut une coopération internationale, c'est très clair.
Merci beaucoup, hein, Philippe Lamoureux, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes le directeur général du LEM, les entreprises du médicament. Merci à toute l'équipe, à tous, à Maquet, Ophélie Lassette et Didier Bleu. Et demain, justement, vous retrouverez Caroline Paré avec son émission sur la lutte contre les faux médicaments.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.